Chapitre premier où, ce qui n'a rien d'original, on commence à se raconter une histoire pour croire ou se dire que l'on est encore vivant. Pour essayer de vivre, le lecteur acceptera-t-il d'être embarqué dans ce chaos ? Cornet, et ce mot pendant que je l'écris cherche en moi l'histoire, longtemps retournée au silence, de l'homme qui, sous la terreur, dans la charrette qui le brinque-ballait de la prison à la guillotine, la mort criant autour de lui, ne s'interrompit pas de lire durant tout le trajet. Puis, et de quelle espérance peut-être essayait-il de témoigner ainsi ? Devant le serviteur de la déesse Raison et sa philanthrope inhumaine machine, corna la page du livre qu'il n'avait pas encore achevé. Le même mot qui s'ouvre, l'entends-tu, Cornet ? Fa-rira-rira-rira, ta-rira-rira-rira, et qui, Jeanne Quinan, sonnez trompettes et clarons, fait joyeusement marcher au combat, marignanez-vous les compagnons, hardis et prompts comme lions, et rutilez sous le soleil les armes et les armures étincelantes, et le sang vermeil sur les verts gazons en fleurs. Le même encore qui fait retentir, flamboyante de cuivre, la mort à mille visages de frères humains, lancés au galop sur l'angoisse d'une bête, lion pourquoi pas, mais en quoi différent sous la mort de nous, pauvres bêtes d'hommes, qui étaient tout à vivre dans sa forêt d'ombreuses lumières. Le même enfin qui, tout bas mirum, dies illa, fera fa-ri-ra-ri-ra-ri-ra, éclater une stupeur de trompette dans le ciel, quand les anges sonneront le jour de la résurrection des morts. Mais si on se laisse songer et entraîner et divaguer dès le premier mot venu, Cornet donc, écorné, racorni, brûlé, bruni, jauni, rongé, moucheté, taché, tavelé de lumière, de terre, de cendre, d'eau, de sang, de temps, deux reproductions de dessins d'Albert Durer. Deux portraits, deux visages, son jeune frère Hans en 1503 et Jésus à 12 ans, la première précautionneusement découpée dans un livre à l'aide d'une lame de rasoir, pour ne pas blesser plus que nécessaire le papier blanc qui l'encadrait, ce travail que tu as dû faire la mort dans l'âme, une véritable amputation de toi-même, de ton amour de la beauté. Fallait-il que tu sentes la guerre fermer sur toi ses ombres, mon Herr Doktor Friedrich Emmanuel, si méticuleux, si soigneux? Il n'aurait pas supporté de se voir tel que nous l'avons découvert et qu'il me demeure. Son visage, la sainte face humaine, fraternelle, distordue, disloquée, écrabouillée par l'explosion d'une gifle de ferraille et de boue. Un certainement pas salaud et, oui, plutôt même pauvre brave petit mouton d'Ivan, pareil au pauvre brave petit mouton que nous étions tous, comme nous embarqués dans l'universel abattoir, hébété, ahuri, harassé, égaré, obéissant, transbahuté, chahuté d'un lieu d'abattage à l'autre par l'insatiable, insaisissable logique de ceux qui ont fait de leurs rêves, du cauchemar qu'ils sont à eux-mêmes, notre destin. Lorsqu'ils les avaient tondus, je ne reconnaissais plus les quatre ou cinq moutons du père Schultz, notre voisin, relâchés dans le pré, difformes sur leurs pattes soudain trop maigres, la tête osseuse, angoissant, dérisoire, ridicule. Mais le pire, ce fut l'agneau pendu à une échelle, écorché, éviscéré. Nous aussi, tondus, écorchés, éviscérés de nos rêves, de nos attentes, de nos espérances, de nos passions, de nos joies, de nos révoltes, de nos douleurs, de tout ce qui nous faisait être nous, pour nous faire glorieusement marcher au combat, comme on dit, et en vérité pour nous faire marcher à la mort. Et je voudrais aujourd'hui, au contraire, me dépouiller de tout ce qui n'est pas moi-même, être nu sur le seuil de ma mort, comme Adam était nu devant Dieu avant le péché. La honte, c'est de ne pas être nu dans cette dernière ou première rencontre. Pauvre Ivan, pauvre brave petit mouton, pauvre semblable, que l'hypnotisant abracadabrayé discours officiel, s'appropriant notre commun pouvoir de nommer, transforme en ennemi, et cependant ce jour-là, comme nous pris dans les odeurs de chaudes forêts d'été qui sent la mort, dans l'embrassement, l'enlacement, l'étouffement d'odeurs de chair déchirée et d'entrailles répandues, crevées, éclatées, encore battantes de l'étonnement rouge du sang que la terre commence à boire, et même la lumière d'été est devenue l'odeur de nos camarades morts, et son sourire s'immobilise en muet ricanement de cadavres dont les dents se découvrent dans une frénésie de mouches. Un pauvre brave petit mouton d'Ivan qui, dans cette malgré les temps de malheur où nous vivions, attendrissante lumière au goût de résine chauffée par le soleil et de fraises des bois, par divertissement allait savoir, ou animal soumission aux ordres, ça ou fusillé, harassé, apeuré, mais glorieusement adoubé dans les communiqués, chevalier à la radieuse armure humaniste et prolétarienne, couleur de matin qui chante, de toute sa jeunesse généreusement vouée à la mission de décapiter et d'écraser la barbare, monstrueuse hydre fasciste dont nous étions, et même toi, si doux et pacifique mouton air doctor, quelques-unes des têtes, jusqu'où involontairement poussées cependant, tous ces jeunes gens que nous étions, égarés par les discours officiels, leur jeunesse perdue dans cet univers de mots sonnant faux, ou allée dans cette clinquante logorée porteuse de mort pour de vrai. Un pauvre brave petit mouton d'Ivan qui balance sur nos misérables margoulettes harassées, apeurées, par ce bel après-midi désœuvré au cœur tendrement, doucement battant de l'été, un obus fabriqué dans une usine de l'arrière par très possiblement des mains de femmes chaudes et berçantes et maternelles. Et c'est toi qui as morflé, pauvre brave petit mouton de Herr Doktor Friedrich Emmanuel, si naïf et pédant et sentencieux, solennel à chier le soir où tu m'as montré la reproduction qu'aujourd'hui, 56 ans plus tard, de nouveau j'élève devant mes yeux, le portrait de Hans Dürer réalisé en 1503 par son frère Albert, ronde gravité sous les blondes vagues tombantes de la chevelure, parfois surprise d'un presque envol, les yeux habitant l'horizon et l'infini de douces et affamées rêveries, pauvre attente alourdie, tirée vers la terre par le poids du menton découragé, défait, abandonné, embarbé d'une maigre éparse blondeur. À Venise, en 1506, tu m'as dit, Albert Dürer s'inquiète à deux reprises de son frère dans les lettres qu'il adresse à son ami Pirkheimer. On perçoit que malgré la distance, il se sent le gardien de ce garçon qui ne gagne pas encore sa vie, s'inquiétant et même, on dirait, souffrant de ce qu'il pense être chez Hans de la paresse. Mais je me demande si cette paresse aux yeux des autres n'était pas plutôt inaptitude à vivre, misère d'être, mélancolie. Cependant, c'est encore autre chose qu'il me semble voir. Tiens, observe, ne trouves-tu pas que le visage de Hans ressemble à celui du Christ à 12 ans? Reproduction sur une carte postale reçue de Vienne qu'il, je veux dire Friedrich Emmanuel, a collé en regard, ayant utilisé pour réaliser ce diptyque une couverture de carnet en moleskine. À croire qu'Albert, qui avait par son rang d'aîné la charge de son cadet après la mort du père, il lui avait d'ailleurs enseigné son art, se souvenait pour dessiner le visage de Jésus du visage de son frère, ou découvrait par le dessin dans le visage de son frère la face du Christ, comme s'il ressentait par son travail quelle naissance était à l'œuvre dans son frère et en lui-même. Bien sûr, tu crois que je fabule et m'emballe, pour rien, en m'aveuglant à mes lanterneuses vessies. Mais pourquoi ne se serait-il pas souvenu des traits de son frère qui le hante pour ébaucher le visage de Jésus à 12 ans? Lui qui, en 1500, a peint son autoportrait selon les règles qui commandaient la représentation de la sainte face. Une autre image qu'il portait sur lui, ou devrais-je dire plutôt en lui, rapportée quelques années plus tôt d'une visite dont il brûlait encore à la Pinakothèque de Munich. Et qui s'est encore autoportraituré en homme des douleurs. Vivait-il que le Christ est la mesure de l'homme? Nach Christus leben, il l'a dit en tout cas. Mais nous, ici, avec tout le sang des morts qui nous empoisse l'âme, qui osera penser que le Christ pourrait encore naître dans notre humanité, qu'il viendra donner sa mesure aux douleurs que nous avons infligées aux hommes, que les souffrances des hommes sont un accouchement? Quel homme pourra naître de ce que nous sommes devenus? Je sais, tu vas encore dire que je divague, extravague, et que je te parlais des frères Dürer. Mais je ne rencontre en tout que des questions qui me poussent vers d'autres questions. Et brusquement, je rêve, Joseph, il ne me l'avait jamais encore confié, d'écrire un petit roman là-dessus quand la guerre sera finie. Albert et Jean, ça s'intitulerait peut-être. Mais comme la mort serre déjà sur nous le joyeux rictus de ses dents nues, je voudrais mourir avec ces images devant les yeux si... Arrête de me rhétoricouiller tes discours à la noix, grand con. Mais ça a bien fini par t'arriver. Et tu seras désormais pour l'histoire, comme je le lirai sur la tombe de tes parents, gravé en lettres gothiques dorées, pauvre hommage d'un puissant amour, cet or à celui qui est mort et que notre amour n'a pu sauver, lorsqu'en 1956, après les camps, encore tremblant et incertain comme un animal nouveau-né sur ses pattes, je passerai par ton village aux lumières d'octobre et de vendanges et de raisins fraîchement pressés et de fermentation commençante, en cette fin d'après-midi dont la transparence bleue se voilait d'un peu de brume. Here's on, Friedrich Emmanuel, 1921-1944, in Russland gefallen. Tombé en blond héros fasciste et barbare envahisseur, qui avait, 1, 2, 3, fait 3 pas dans un sous-bois, à la recherche de fraises ou peut-être de framboises ou de mûres dont tu sentais le parfum, dont tu nous avais affirmé, je vous le jure, bande de nazes, que tu sentais le parfum, mais ce n'était peut-être que le petit garçon que tu étais resté de toute ta science, qui avait retrouvé ce parfum dans sa mémoire, contre la mort qui tourne dans cette et virevoltait parmi nous. Alors les deux reproductions, je les ai sortis intactes de leur petite enveloppe de moleskine que tu gardais dans ta poche, sur ton cœur qui ne battait plus. Je les ai élevés devant ta face, bousillée par la fin du monde ou la révélation. Devant ce pétrissage de chair, de terre, de cervelle, d'os et de sang, comme le premier homme en train de devenir homme entre les mains de Dieu. Et quand j'ai retrouvé les yeux là-dedans, je leur ai montré le portrait de Hans Dürer et celui de Jésus à 12 ans, en absurde, absurde et qui sait après tout, ostension. Puis je n'ai pas eu le temps de te faire glisser dans le trou que l'obus avait creusé à côté de toi en même temps qu'il te tuait. Alarme, alarme, partisan, qui venait une fois de plus s'abattre sur nous au repos. Vite à l'abri, grouille-toi, bon Dieu. Et Franz m'empoignait par l'épaule pour me relever et m'entraîner, nous jeter en courant à l'abri sous un camion, d'où j'en ai visé un et l'ai abattu à travers mes larmes. Ils ont tiré aussi avant de disparaître, puis nous avons reçu l'ordre de monter immédiatement dans les camions, car les Russes avaient lancé une offensive un peu plus loin. Il fallait arrêter leur putain de T-34, et tu manques toujours à ma jeunesse en ce juillet radieux, qui voit entrer mes 78 ans dans une résidence pour seniors, comme on se plaît à dire dans notre monde, qui a si peur de se faire mastiquer par le dentier du temps. Pauvre petit vieux, désormais, rendu trop inhabile par un dérisoirement petit accident vasculaire cérébral, pour réussir à ajuster de mes mains la couche culotte qui me sauve dans les pluricotidiennes débâcles de mes sphincters. Mes mains qui m'abandonnent, plus assez de force, sauf pour écrire. Thomas et frère Colomban prennent congé. Je vous attends. Les embrasse encore une fois le meunier. Et ce terreux avec vous, il est chez lui dans mon cœur. Vous lui direz, et donc dans ma fête, les noces de mon fils, je vous attends. Ils prennent congé, s'éloignent de la noce et des danseurs, montent vers le lieu dit Gremberg sur la colline au gibet. Bienvenue, voyageurs, voici palmes et rameaux que nous agitons pour vous saluer, langues et guiboldes pendues que le vent fait danser dans le soleil ou dans l'orage. Même les oiseaux du ciel y trouvent pitance à leur goût, zinzinulants piailleurs de trilles, joyeusement énucléeurs, qui festoient de la ferme cerise des yeux encore exorbités par l'étranglement. Pauvres yeux en leur dernier regard, leur dernière contemplation. Mais quelle contemplation, cet affolement, cette folie de tout embrasser une dernière fois, ne pas perdre le doux jardin de la terre alors que tout est perdu, pauvres yeux envahis, aveuglés bientôt par la mort, mais par lesquels le supplicié, pour peu que l'agonie soit suffisamment lente, peut recevoir l'adieu de la vulnérable, fragile, lumineuse beauté du monde. C'est la hanche d'une femme, la rondeur de son ventre, ces collines. Et cette île obscure entre les cuisses bienheureuses ruisselantes de soleil que dessine le fleuve. et sur les collines le rire d'enfant à l'infini des feuillages, le troupeau bondissant immobile des champs jusqu'au lointain, la respiration claire, transparente, dorée de l'horizon qui s'élargit. La pie ne se tait pas, et d'autres ont volé la rejoindre. Tchac, 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 elle sarabande dans un haut sapin noir touffu non loin, ses rires, ces petits cailloux de rire grêlant sur tout ce qui passe, ses rires amèrement desséchés, enragés, acharnés de commère, dépeçant le voisinage, tchac, 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 tchac. Il ne s'arrête pas, il faut chercher depuis cet endroit. Il n'y a pas de sentier, de chemin ouvrant la forêt, mais une pénombre verte où celui qu'ils aimeraient trouver peut se dissimuler partout, les observant à quelques pas, prêt à s'enfuir ou bien ayant gagné déjà, pressentant le danger, une autre partie de la forêt, une autre colline, une autre forêt. Et soudain, dans une trouée, un étang de ciel bleu clapotant au bord illuminé des feuillages, où l'ombre se fait clairière, de tout son long abattu, un gros sapin déraciné par les tempêtes de l'hiver. Par un orage, allez savoir, vous avez déjà vu ça dans votre vie, mon petit Alexandre le Pacifique, qui tic-tic-tic, bon petit moine, électronicopiste, dactyle ordonné, mon buissonnant manuscrit aux lignes bousculées par mes infirmités, puisque vous me l'avez offert si généreusement et que j'ai accepté, tic-tic-tic, sur votre bel ordinateur en tout lieu transportable, et pourquoi pas tic-tic-tic en forêt, pour que vos doigts si habilement voltants y rendent jaloux les acrobatiques tic-tic-tic sautillantes, bondissantes si telles, parcourant troncs et branchages. Avez-vous déjà vu un grand sapin déraciné, la forêt blessée, bouleversée par un profond durandalien coup d'épée de lumière, là où l'arbre à la fois s'agrippait et s'élançait de sa ténébreuse puissance, et d'où se lève maintenant sans pouvoir gagner le ciel, et toujours levant vers lui un grand déchiré soleil de terre et de racines. Et dessous, dans les dernières racines qui n'ont pas cédé, une niche, un abri de feuilles mortes, de fougères, d'herbes sèches, de branches entretressées, tout cela colmaté, renforcé d'une croûte de boue séchée, un mélange de terrier et de masure. Entre les racines, il se penche dans une ouverture sur la nuit là derrière, une nuit où fugitivement leur apparaît la clarté incertaine de deux yeux. Puis plus rien. Mais cela existe, cela retient son souffle, tassé, un corps, tout au fond. Cela doit nous ressembler, ombre dans les ténèbres du wagon, wagon jouet dans la main glacée de la nuit. Nous déposera-t-elle, celui qui joue veut notre mort de vers de terre. Je me souviens de ceux que j'avais récoltés et enfermés dans une petite boîte métallique pour aller à la pêche, qui étaient morts complètement cuits là-dedans un jour d'été d'écrasante, de broyante lumière de meule. Nous sommes en train de crever de froid, le froid qui nous gagne nous ankylose, c'est la mort qui monte en nous. A-t-il chaud dans son trou, lui, sentant deux présences se pencher sur lui? Sur nous personne ne se penche, que la peur et la nuit glacée. Quelqu'un, rêve-t-il, implore à boire, mais le train ne s'arrête pas, ne s'arrêtera pas. Tu peux crever, s'il s'arrêtait pourtant. Si un soldat, même pas, ouvrait, mais entrebâillait seulement la porte, le temps de saisir, ah, s'il faisait jour, la main tendue du ciel bleu. Mais une étoile, en pleine ténèbre, une étoile seulement, le seul bref regard d'une étoile nous donnerait assez à vivre pour repousser encore un peu la mort, quelques heures. Boire, manger, adolescent affamé de savoir et de beauté, comment aurais-je pu imaginer que mon corps deviendrait pareille agonie, pareille crucifixion? Si un soldat, un ennemi, à qui nous le savions assez, par nos crimes de blond sur homme qui ne croyait plus au crime et au mal, de blonde jeunesse impitoyablement porteur d'un monde nouveau qui ne serait plus éclairé par ces vieilles lunes, nous avions donné toutes les raisons de nous haïr pour l'éternité. Si contre toute logique, un soldat ennemi devenu notre vainqueur, notre gardien, notre maître, avait entrouvert à peine ce qu'il fallait la lourde porte coulissante sur son visage d'homme, nous avait offert le pain de son visage d'homme, nous avait désaltéré à son regard d'homme. Mais la porte n'a pas bougé cette nuit-là, ni le jour suivant. L'homme ne s'est pas montré. Le grand absent des misères de l'homme, ce n'est pas Dieu. c'est l'homme. C'est l'homme qui se tait à Auschwitz, qui se tait à la Colima, qui se tait à Dresde, à Hiroshima, à Milaï, à Sabra et Shatila, au Tibet. C'est l'homme qui se tait sur les flaques de sang, place Tiananmen, qui se tait sur 1,5 million d'Arméniens massacrés, sur des milliers de Kurdes gazés, sur les enfants du paradis chinois, sur des millions d'autres enfants esclaves, et sur qui encore aujourd'hui, et sur qui demain? C'est l'homme qui se tait sur l'enfer, où il ne cesse de jeter son prochain. Vous allez tic-tiquer cela aussi, Alexandre, mon pacifique? Délire de vieil homme, sans doute. Qu'en penserez-vous penché sur votre écran, comme je vous ai surpris avant-hier soir dans la pièce du personnel qui donne sur le couloir? La nuit, par la fenêtre ouverte, était bleue et chaude et odorante. Je vous ai dit de ne pas oublier que la nuit était belle, et vous m'avez souri. Comme il fait chaud ici cette nuit. J'ai sonné pour que vous m'apportiez un verre d'eau minérale, et vous êtes venu, Alexandre. Nous avons bavardé un moment. L'eau minérale était fraîche, pas comme celle que votre collègue de l'après-midi m'a refilée avant de partir, vite pour se débarrasser, la bouteille déjà tiède, qui s'est encore attiédie en cours de soirée. Alexandre, vous qui avez des doigts encore habiles, cherchez-moi pour continuer la nuit une musique sur cette radio que je peine tant à manipuler. Arrêtez-vous ici, je crois reconnaître un air d'Idoménéo. Oui, je sais, d'autres pourraient vous appeler. Je vous laisse rejoindre votre poste et moi j'écrirai. C'est Elselein que vous aimeriez voir arriver, vous êtes comme Franz. J'aurais voulu raconter encore, m'attarder encore, près de ce Grégoire dévoré par sa nuit, mais Franz me talonnait de ses « Elselein, Elselein » et l'embaumeur le soutenait. Mais disons que la nuit a fraîchi peu à peu, et voici cette grâce fraîche d'avant l'aube, où le corps tourmenté par la chaleur s'apaise enfin et cède au sommeil. Vous avez été amoureux, Alexandre. Vous savez ce que c'est que le grand amour ébloui, agenouillant, et d'être une danse qui jaillit et un psaume devant cette présence? Moi, j'ai rêvé de cela toute mon adolescence. Et ça ne m'a pas empêché de violer une petite Russe dans un jardin qui aurait pu demeurer à l'abri de la guerre. J'ai tout piétiné. Il m'a fallu rencontrer une ressuscitante. Et ça ne s'est pas fait d'un coup, et même pas en 3 jours. Ce n'est rien de vivre, mais apprendre à dire « tu ». Je tâtonne encore, je bégaye. Je voudrais dire « tu » et je « me » répète et ne m'ouvre pas assez. Pourtant, je dis « tu » donc « je suis », même sans vous le faire en latin, ce n'est peut-être pas plus con que ce que d'autres ont dit, même si ça ne révolutionne pas la pensée. D'ailleurs, j'aimerais mieux « j'essaye de dire « tu », donc je me balbutie ». J'essaye de dire « tu », donc je balbutie. J'ai le prurit philosopher cette nuit, Alexandre. Je commençais à peine à penser cela là-bas. Tranche de jambonnan entre le dos de Franz et la poitrine de l'embaumeur, puis entre la poitrine de Franz et le dos de l'embaumeur, et tourne et retourne et retourne et tourne encore, au rythme imposé par les uns et les autres sur les planches, où s'est imprégnée l'odeur de la poussière et de la vieille sciure, et de la sueur et de l'urine et de la chiasse et du vomi, et pourquoi pas des larmes. J'étais emmuré vif dans le tombeau de moi-même, et aujourd'hui encore je ne m'éveille qu'à travers des fentes qui se sont élargies lentement. Je sens un peu de clarté sur moi, assez pour me donner la lumière de ce « tu » hors de moi, en laquelle je prends souffle, comme on prend vie, comme on prend vol. Au Grégoire, ça s'est fait d'un coup. La pierre s'est décellée, a roulé, et le matin est entré aussitôt, l'appelant, le prenant par la main pour le faire se lever et le conduire au dehors quand il s'est installé à la casse et que le matou de maître Martin, après s'être frotté à ses jambes, s'est juché sur le meuble devant lui en ronronnant. La matinée commençait à peine. Pour qu'elle entre dans un souffle de sa fraîche robe d'ombre bleue, on avait laissé la porte ouverte. Tout à l'heure, la chaleur engluerait l'atelier. On chercherait à respirer, on irait remplir un gobelet à la fontaine et s'y asperger la nuque et le visage. Mais c'est plus que la matinée qui est entrée. Quand, le premier, il s'est aperçu de sa présence, le matou est allé se jucher sur la presse, on ne sait jamais. Observant les yeux mi-clos, la jeune fille qui hésite sur le seuil, un panier au bras. A-t-elle une odeur? Oui. Ça sent vaguement le lait et l'étable, et un peu plus le verger, et la route et la poussière, et les cheveux blonds pleins de soleil. Elle a un peu chaud, elle s'est un peu trop hâtée, mais ce n'est pas une odeur désagréable, mêlée à celle des... Oui, ce sont des prunes et bien mûres, les premières de l'été que contient le panier. Eh bien, mais qu'elle fasse un pas, qu'elle rejoigne son odeur, qui est déjà entrée, qu'elle lance son bonjour. Vous êtes assez perspicace, cher Alexandre, pour imaginer à partir de vos lectures, les livres en disent toujours trop à ce sujet, quel trouble s'empara de Grégoire quand, ayant entendu des froissements de robe s'approcher de lui, il leva les yeux. Trouble qui lui dessécha la gorge, lui fit battre les tempes. Ainsi croyais-je que cela devait être, et que son cœur battait à lui faire mal, d'autant plus que c'est à lui que la jeune fille tendit, sourire blond tout ensoleillé de matin, comme nous l'avons dit, le panier d'osier rempli de grosses prunes, dont la peau violette transparaît sous un voile de poudre bleue. Ah, c'en sera bientôt la saison de nouveau. J'en ai vu qui mûrissent dans un verger. Oui, il existe encore un verger, pas loin d'ici. Leur chair de miel mordant la bouche. Il semble à Grégoire qu'il ne pourra plus jamais rien manger, que sa bouche, ah, l'idiot vraiment, l'idiot d'amour, ne pourra plus jamais rien accueillir sans offenser la joie reçue. C'est le moment où un séducteur, pauvre Don Juan, ce que tes singes aujourd'hui font de toi, entend le signal d'alarme. « Attention, tu deviens idiot !» Et aussitôt il se referme comme une huître, se refusant, incapable de se donner, de se mettre en chemin, préférant continuer à faire le tour de sa mort. Grégoire, lui, le naïf, se lance dans cet autre comme on se met en chemin par une nuit obscure, et la nuit, c'était-elle, une nuit où toute sa vie trouverait à vivre, et notre mesure, la mort, se fendillait comme une coquille d'œuf autour de lui. Quelle folie pour un chat! Seigneur Dieu, quel mal faisait donc Monsieur Moore en faisant son petit ronroupillon du matin au beau milieu de mon duvet. Mais aussi, Alexandre, pourquoi ne m'avoir pas dit que vous vous absentiez aujourd'hui et que c'était la délicieuse qui allait ramener son citrouillesque popotin et surprendre notre sage en pleine méditation? Elle s'est mise à meugler en toussant et s'étranglant, puis elle est sortie en faisant trembler tout l'étage sous ses sabots, car elle porte réellement des sabots de cuir à semelles de bois, et un peu plus tard je me suis retrouvé, téléphoniquement et sans excessive aménité, comme on dit, convoqué dans le bureau du directeur par sa grandeur en personne. Sa voix ne me disait rien de bon, mais quand j'ai vu sa gueule, même chez les SS et dans les camps où j'ai été prisonnier, je crois que je n'ai pas rencontré une aussi brutale suffisance. C'est la morgue régnant sur un troupeau de vieux. Un chat dans votre chambre, un chat errant, un pucier, un nid à microbe. Oui, monsieur Mur, il a osé dire ça. De vous, bien entendu. Pardon? Je n'aurais jamais cru qu'un chat pût miauler si grossièrement. Rendez-vous compte, il a continué, se levant, brassant emphatiquement l'air des deux bras et de la gueule. « Vous ne vous rendez pas compte de quoi mettre en fuite tous nos résidents. Oui, de quoi vider ma résidence, me faire perdre tous mes clients, à cause d'un chat. Vous avez oublié d'interdire l'entrée aux mouches et aux moustiques. Ah, et il y a des araignées aussi. Oserais-je vous suggérer de tolérer au moins les coccinelles? Quant aux chats errants, bien sûr nous les gazerons tous. » Vous ne réussirez pas à me faire sortir de mes gonds. Vous êtes assez doué pour le faire tout seul. Je suis le chef ici. Oui, il a dit ça, non pas le directeur ou le responsable de la résidence ou le grand timonier, mais le chef. Je suis le chef, je suis le chef, comme s'il se nourrissait, se repaissait de ce mot auquel seul il avait le droit de goûter, se sacralisant aux yeux des autres. À cet instant, il ne manqua plus à cet infantile que quelques trépignements et gesticulations de fureur. « J'ai la charge de toute la résidence, incantationna-t-il, et de tous ceux qui l'ont choisi, aspirant à y trouver un havre de paix pour leurs derniers jours. » Petit trémulant voile d'émotion dans la voix à la fin. J'ai la charge aussi du personnel. J'aime cette résidence. J'aime ses résidents. J'aime son personnel. Et vous aimez son directeur, j'ai prononcé avec une majuscule. Et si vous n'aviez pas la nuque si raide, vous vous lécheriez les bottes. J'aime son règlement, qui est clair et sans appel. Pas d'animaux ici. Les caprices d'un résident. Caprice, il a appelé caprice mon amitié pour vous, monsieur Moore. Caprice, l'amitié. Et caprice, la joie de vivre et d'avoir des amis. Béni soit la vieillesse qui me dépouille un peu plus chaque jour de tout ce qui est inutile. Vous m'écoutez ? Il a haussé la voix. Les caprices d'un résident ne doivent pas compromettre l'hygiène que nous faisons régner ici, ni ruiner conséquemment la réputation et la confiance que nous avons su mériter, et donc mettre en péril le fric que vous gagnez. Ce n'est pas honteux, que je sache, de tirer un légitime salaire de notre dévouement. Eh bien, votre dévouement et votre règlement, allez donc vous les piler dans un pot de chambre avec votre arrogance et votre toute-puissance, et vaselinez-vous-en la troufignette en levant le petit doigt. Je ne passerai pas un jour de plus dans cette résidence dont vous faites votre joyeux petit Reich. Je me suis levé et je suis sorti de toute la vitesse que me permettait mon foutu déambulateur. Il s'est dérobé quand j'ai claqué la porte. Et je me serais cassé la gueule sans la main courante du couloir. Je suis quand même parti en rigolant. Durant notre conversation, le contenu de mes intestins s'était fait la belle, et par quelques mouvements appropriés, j'ai suffisamment entr'ouvert ma couche pour laisser un copieux odorant jaunâtre souvenir sur le fauteuil de vrai, oui, vrai cuir marron qu'il ne m'avait pas offert, me tendant une chaise, mais que j'avais pris d'autorité. Quelle enfoirade pour en sortir. Heureusement que je m'étais mis en colère et que ça me donnait des forces. Alexandre, nous vivons dans un monde qui n'aime pas la vie. Voilà le fin mot de notre histoire. 2 heures plus tard, mon fils arrivait dans sa Jaguar et réglait la question à mon insu. « Tu peux rester ici, » est-il venu m'annoncer dans ma chambre. « Après ce que j'ai dit à cette chiasse de directeur, après ce que tu lui as dit oui, et ne va pas croire que je t'approuve. Ce directeur est un type bien, même si son poste lui monte à la tête. Tu éviteras à l'avenir de te frotter à lui et tout ira bien. Mais comment tu t'y es pris pour arranger les bidons ? Cette résidence fait partie d'une chaîne dont nous comptons parmi les actionnaires principaux. Tu quoque, mi fili, une fois de plus. Des dictatures sous lesquelles j'ai dû essayer de vivre, celle dont tu te fais le fonctionnaire intelligent et zélé et rusé, est la plus perverse. Hypocritement droit de l'homarde, avec son artificieusement, dentifricieusement, dantesquement souriante gueule d'In God We Trust, comme si le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu fait chair d'amour, chair crucifiée d'amour, chair ressuscitée d'amour, chair chaque jour jusqu'à la fin du monde, ressuscitante d'amour pour chacun de nous, pouvait être employée comme caution de votre terre promise de magouilles, où vous grenouillez, spéculez, tripatouillez, larronnez, friponnez, volez, larcinez, corrompez, concussionnez, malversationnez, fraudez, détournez, falsifiez, filoutez, dérobez, soustrayez, distrayez, spoliez, pillez, piratez, abusez, escroquez, trichez, trompez, trahissez, intriguez, boursicotez, trafiquez, blanchissez, achetez, vendez, maquerellez, mentez, exactionnez, écrasez, restructurez, dégraissez, congédiez, licenciez, virez, jetez dans les ténèbres extérieures de ce royaume de l'économie libérale que vous osez appeler civilisation judéo-chrétienne, car vous n'en êtes pas à une falsification d'écriture près, fût-elle sainte. Comme si le Dieu de Jésus-Christ pouvait vous cautionner quand vous vous prenez pour les dieux créateurs d'un monde nouveau, votre paradis néolibéralo-capitaliste, vous qui créez le chaos et l'enfer, et dans votre grande gueule autocélébrante, vous dévorez par millions et milliards les pauvres, et vous croyez vous laver la bouche de la question de Caïn, alors que vos gargarismes sur la liberté et la responsabilité de chacun à faire sa vie ne sont qu'une façon de demander « suis-je le gardien de mon frère ?» pendant que les ordres que vous donnez crucifient à leur pauvreté jusqu'à ce que désespoir s'ensuive, les pauvres condes pauvres, la face humaine de Dieu. Prenez garde que Dieu ne calcule pas en larmes versées par des milliers et des millions et des milliards que vous n'avez pas aimés, que vous avez refusé d'aimer, que vous n'avez même pas voulu voir, que vous avez ignoré, que vous ne cessez d'ignorer au seuil de vos bourses et de vos banques, et les ordinateurs dont les calculs servent de prétexte à toutes vos inhumanités seront incapables de chiffrer ces larmes, mais vos salaires pharaoniques n'en sont qu'un dérisoire pourcentage, et leur infantile gigantisme ne vous protégera pas et n'achètera pas la moindre indulgence. Mais à quoi bon ? C'est l'heure du triomphe de Mammon et de tous les veaux pourvu qu'ils soient cousus d'or. Je ne te convertirai pas, et pourtant je t'aime. Hirondelles, inlassables à rayer de leurs ailes et de leurs cris le ciel de pierre bleue, la foudre du silence, passage et passage et passage, et rien ne demeure. Une lettre d'amour infinie qu'on écrirait à quelqu'un et que l'air efface à mesure. Si c'était comme le désert boit la pluie. Mais elles continuent à faire leur métier d'hirondelles. Et qui sait si la lumière ce matin, dans laquelle on ne voit rien, un éclair dont la tendresse ne s'éteint pas, n'est pas le ciel qui s'ouvre. Je ne désespérerai pas de toi.
C'était Jean-François Haas avec des extraits de « Dans la gueule de la baleine guerre » enregistré le 14 janvier 2009 à Neuchâtel.